Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 31 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. Au Niger, l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, était mercredi soir largement en tête des résultats partiels du premier tour de la présidentielle du 27 décembre. Seuls les résultats de 81 des 266 communes ayant été compilés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Mohamed Bazoum, bras droit du président sortant, Mahamadou Issoufou, devançait l'ancien président Mahamane Ousmane, soutenu par le principal opposant à Mahamadou, dont la candidature n'a pas été retenue en raison d'une condamnation par la justice. Favori du scrutin, M. Bazoum vise une victoire au premier tour, ce qui n'est jamais arrivé au Niger. Cette élection doit être la première transition démocratique entre deux présidents élus depuis l'indépendance du Niger en 1960. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore, réélu pour un second mandat, a démis de ses fonctions mercredi. Le premier ministre Christophe Dabiré est dissous le gouvernement. Une procédure habituelle après des législatives. Aucune information n'a filtré sur le nom du futur chef du gouvernement, ni sur la date de sa nomination. Le président Kabore a été réélu au premier tour pour un second mandat le 22 novembre. Le scrutin présidentiel était couplé aux législatives, remporté largement par le parti au pouvoir et ses alliés. Pascal Affi N'Guessan, un des principaux responsables de l'opposition en Côte d'Ivoire, a été libéré sous contrôle judiciaire mercredi, après presque deux mois de détention préventive, un geste d'apaisement politique en vue des élections législatives de mars. Le pouvoir, l'opposition et la société civile ont achevé mardi un premier cycle de pourparlers d'une semaine à l'issue duquel la date des élections législatives a été fixée au 6 mars 2021 selon le gouvernement. Même si aucun accord n'a été formellement signé, des progrès ont été enregistrés de l'avis de toutes les parties. En Centrafrique, la coalition de l'opposition a demandé mercredi l'annulation des élections présidentielles et législatives du 27 décembre dans le pays, perturbé par des groupes rebelles, un scrutin pourtant salué comme crédible et légitime par le gouvernement et la communauté internationale. La coalition de l'opposition démocratique, CODE 2020, regroupe les plus importants partis et mouvements de l'opposition et avait déjà exigé le 19 décembre le report des élections pendant que des groupes rebelles menaient une offensive contre le président sortant, Faustin Archange Touadéra, et promettaient de marcher sur Bangui, la capitale. 28 personnes ont péri mercredi dans une attaque commise contre un car près de la ville syrienne de Daï Azazou, selon la télévision d'État en Syrie. Le véhicule ciblé transportait des militaires et des miliciens pro-gouvernementaux de retour de permission. Selon plusieurs habitants et des sources proches des services de renseignement, la zone est la cible ces derniers mois d'attaques de plus en plus fréquentes commises par des éléments de l'organisation État islamique qui se livrent à des opérations de guérilla. Au Yémen, plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées mercredi dans une attaque à l'aéroport d'Aden, peu après l'atterrissage d'un avion transportant des membres du nouveau gouvernement d'Union en provenance d'Arabie Saoudite. Quelques heures après l'attaque, une deuxième explosion a été entendue près du palais présidentiel d'Aden où les membres du cabinet, dont le premier ministre Maïn Abdelmalek Saïd, ainsi que l'ambassadeur saoudien au Yémen, Mohamed Al-Jaber, avaient été mis à l'abri. Le nouveau cabinet d'union réunit le gouvernement du président Abd Rabo Mansour Hadi et les séparatistes du Sud. Il s'agit des deux principales formations yéménites alliées au Sud et soutenues par les Saoudiens qui luttent contre le mouvement Houthi aligné sur l'Iran qui contrôle le nord du Yémen. Ici aux États-Unis, le principal expert américain en maladies infectieuses, Anthony Fauci, a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les États-Unis parviennent à atteindre, grâce aux vaccinations, une immunité collective suffisante contre le coronavirus pour retrouver un semblant de normalité d'ici l'automne 2021. Il a effectué cette déclaration au lendemain du ton pessimiste affiché par le président élu Joe Biden, qui a décrié les retards dans la campagne de vaccination menée par l'administration sortante de Donald Trump. VOAfrique Info, nous sommes le jeudi 31 décembre 2020. En ligne de mire dans ce journal, les législatives en Côte d'Ivoire, Ghana, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle devant la justice et Centrafrique, un humanitaire de MSF tué des locaux de la Croix-Rouge, saccagé. La suite de nos informations en ce jeudi 31 décembre 2020, les Ivoiriens retourneront aux urnes le 6 mars 2021 pour des élections législatives. Annonce faite par le porte-parole du gouvernement au lendemain de la fin d'un cycle de pourparlers entre le pouvoir et l'opposition. Abdourahmane Dia.
Les collèges électoraux sont convoqués le 6 mars en vue de l'élection des députés de la mandature 2021-2025, a déclaré Sidi Touré, ministre de la Communication, à l'issue d'un conseil des ministres. Ceci après une semaine de pourparlers, mais des blocages persistent selon un responsable de l'opposition. Il s'agit notamment de la libération des leaders politiques emprisonnés après l'élection présidentielle du 31 octobre, le retour des exilés comme l'ex-président Laurent Gbagbo et la recomposition de la commission électorale que l'opposition juge déséquilibrée en faveur du pouvoir. Hier mercredi, Pascal Afinguessan, un des principaux responsables de l'opposition en Côte d'Ivoire, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire selon son avocat. Le Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Gbagbo et deuxième grand mouvement d'opposition, a déjà annoncé la semaine dernière sa participation aux législatives. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'Henri Konan Bédié, ne s'est pas encore prononcé. Les violences électorales liées à la présidentielle boycottée par l'opposition qui avait appelé à une campagne de désobéissance civile ont fait 85 morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre.
Au Ghana, le candidat de l'opposition John Dramani Mahama a déposé une plainte devant la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée au début du mois par le président sortant Nana Akufo-Addo. Les précisions de Yacouba Ouédraogo.
Dans cette demande déposée par John Dramani Mahama, le chef de l'opposition affirme que l'élection présidentielle a été entachée par des fraudes et que son résultat doit être annulé. Il demande à la justice qu'une ordonnance enjoigne la commission électorale à procéder à une deuxième élection car ses résultats sont inconstitutionnels, nuls et non avenus, dit-il. La commission électorale a annoncé que le président sortant Nana Akufo-Addo est réélu avec 51,59% des voix contre 47,36% pour John Mahama. Seul un peu plus de 515 500 voix séparent les deux candidats. L'opposition a alors immédiatement contesté sa défaite devant la presse. Selon les observateurs internationaux et locaux, le scrutin s'est déroulé globalement dans le calme. 5 personnes ont cependant été tuées dans des violences le jour du vote et du dépouillement d'après la police. C'est la troisième fois que Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama s'affrontent à la présidentielle après 2016 et 2012.
En Centrafrique, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge dénoncent une nouvelle vague de violence après le meurtre d'un employé de MSF au lendemain des élections présidentielles et législatives de dimanche. Les détails avec Eddie Sango.
L'humanitaire du MSF a reçu une balle et est mort avec deux autres personnes à bord d'un camion des transports publics. Il venait des Bambari et s'est rendu à Bangui quand la fusillade a éclaté. Il n'était pas en service. 19 autres personnes ont été blessées selon le chef des missions du MSF qui signale que la soirée du 27 décembre, les locaux du CICR ont également été saccagés par des hommes armés à Boire dans l'ouest du pays. Ce sont blessés 3 employés de la sécurité. Bambari, la quatrième ville du pays située à quelques 380 km au nord-est de Bangui, avait été prise temporairement la semaine dernière par des rebelles lors d'une offensive visant à perturber le processus électoral. Les élections ont eu lieu dimanche dernier sous tension. Depuis 2018, la guerre en Centrafrique a évolué en un conflit de basse intensité où les groupes armés contrôlent le 2/3 du territoire et se disputent les contrôles des ressources du pays.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec Michel Joseph.
L'Afrique a été en grande partie épargnée du point de vue sanitaire par la pandémie du nouveau coronavirus, mais elle n'en subit pas moins les répercussions économiques. Le Fonds monétaire international prédit une contraction de 3% du PIB du continent en 2020, le pire résultat jamais observé pour la région, souligne le FMI. Bonne nouvelle pour 2021, toujours selon le fonds, l'Afrique connaîtra un rebond de 3,1% en 2021. À noter que les pays africains sont diversement affectés par la pandémie. Le plus touché, l'Afrique du Sud, verra son PIB baisser de 8%. Elle était entrée en récession fin 2019. Le quotidien angolais Au País, en quête de nouvelles opportunités dans le monde, il a rejoint la plateforme de PressReader, une compagnie de technologie et de distribution basée à Vancouver, au Canada. Cette initiative permettra de présenter au monde ce qui se fait en Angola à travers les articles de Au País, mais aussi du magazine Exame, pour attirer les investisseurs, a expliqué Danny Costa, un responsable de Media Nova, le groupe de presse auquel appartient le quotidien Au País.
À présent, la page des sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Fanfile Miayo a repris les commandes du club congolais du tout-puissant Mazembe. Il remplace le Serbe Cvetkovic, qui l'avait succédé après sa rétrogradation au poste d'entraîneur adjoint en mars dernier pour manque de résultats en Ligue des Champions. La direction du tout-puissant Mazembe annonce que le contrat du coach Dragan Cvetkovic, arrivant à échéance ce 31 décembre 2020, ne sera pas prolongé. Conformément au processus de décision du club, le comité sportif réuni a décidé la nomination du Pamphile Miayo Kazembe, de retour d'un stage de formation à Liège au poste d'entraîneur principal. Il sera secondé par Isaac Kasongo comme entraîneur adjoint, lit-on sur le site web du tout-puissant Mazembe. Parlant justement du TP Mazembe, 9 joueurs du club louchois ont été présélectionnés par le coach Florent Ibengue, sélectionneur de l'équipe A' de la République démocratique du Congo pour le CHAN 2020. Le TP Mazembe a annoncé Godé Massengo, Joss Isama, Arsène Zola, Miché Mika, Gondry Soudi, Joël Béa, Philippe Kizumbi, Étienne Mayombo et Chico Ushindi, gardien titulaire lors du dernier sacre des Léopards A' dans la compétition en 2016. Le gardien Lei Matampi a lui aussi été présélectionné à annoncer son club du FC Lupopo. Au CHAN, la RD Congo affrontera le Congo, le Niger et la Libye dans le groupe B. Pour préparer justement la compétition, le pays hôte, le Cameroun, l'Ouganda, le Niger et la Zambie vont disputer un mini-tournoi au stade Amadou Ahidjo. Le Cameroun joue l'Ouganda demain. Samedi, le Niger va défier la Zambie au stade annexe 1 Omnisport. Le CHAN s'ouvre le 16 janvier avec le match inaugural entre le Cameroun et le Zimbabwe. En Angleterre, Liverpool a concédé un deuxième match nul de suite hier à Newcastle 0-0 lors de la 16e journée du championnat. Sacré champion d'Angleterre l'été dernier pour la première fois depuis 30 ans, les Reds finissent également cette glorieuse année en tête du classement. Ils se rendront lundi à Southampton, tandis que Manchester United reçoit Aston Villa vendredi. Pendant ce temps, le Covid-19 continue de perturber la Première Ligue. Le match Tottenham-Fulham a été reporté hier en raison de cas déclarés dans les rangs des Cottagers. Il s'agit du troisième report d'un match cette saison en Angleterre après Newcastle-Aston Villa début décembre et Everton-Manchester City lundi. La Première Ligue a indiqué qu'elle n'envisage pas de suspendre le championnat.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Écoutez le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie, à présent le dossier du jour. Au Gabon, le Parlement a adopté une modification de la Constitution qui fixe de nouvelles conditions concernant l'intérim du président de la République. En cas d'indisponibilité du président, ce sont désormais les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense qui assureront conjointement l'intérim. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Georges Mpaga du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon.
La dernière constitution, la succession du président de la République était réalisée après la constatation de la Cour constitutionnelle par le président du Sénat. C'est le président ou la présidente du Sénat qui devrait succéder au président de la République. La réforme actuelle est vraiment une sorte d'ambiguïté. Il y a un mélange de responsabilité au sommet de l'État entre le pouvoir exécutif et le Parlement et le pouvoir législatif. Donc il y a trois personnes qui vont pouvoir gérer une sorte de triumvirat, à savoir le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Et on trouve à l'intérieur de ces deux personnalités politiques le ministre de la Défense. Et cela traduit aussi une sorte d'affaiblissement du gouvernement, du poste de Premier ministre.
Quels sont les problèmes que vous voyez dans cette réforme, en plus de ceux que vous avez déjà évoqués?
Mais c'est une réforme qui n'a pas de sens. C'est une réforme qui n'a pas de sens dans la mesure où elle met des difficultés dans des choses qui pouvaient être réglées de façon la plus simple. L'ancienne constitution comportait un certain nombre de responsabilités. Le président de la République a un vice-président. Le vice-président aurait pu succéder simplement au président de la République ou alors maintenir la présidence du Sénat. C'était la chose la plus facile. Mais avec ce triomphe-là, on ne sait pas qui va gouverner, comment les décisions vont être prises, qui sera le chef de file de ces trois personnalités. Toutes ces choses ne sont pas clarifiées. Donc c'est une réforme de notre point de vue qui vient encore entraver un processus institutionnel déjà potentiellement dégradé. Parce que le Gabon est dans un état de dégradation démocratique, est dans un état où les institutions sont phagocytées par une famille. Tous les leviers du pouvoir sont entre les mains aujourd'hui de la présidence de la Cour constitutionnelle. Parce que même ce triumvirat dépend de la Cour constitutionnelle. Il est validé par la Cour constitutionnelle. En dernier ressort, c'est la présidente de la Cour constitutionnelle qui voit ses pouvoirs renforcés.
Qu'entendez-vous faire?
Mais nous entendons de manière formelle saisir la Cour constitutionnelle. Même si nous savons que la Cour constitutionnelle va se pencher du côté du pouvoir. En deuxième lieu, nous allons utiliser la jurisprudence internationale. De plus en plus, au bout régional, de plus en plus, les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile saisissent la Cour africaine des droits de l'homme qui est basée à Arusha, qui ne peut plus à une autorité.
Georges Mpaga, du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, joint à Libreville.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Tchad, le député Saleh Kebzabo, président de l'UNDR, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, est dans le collimateur de la justice. Le ministère public reproche à l'opposant d'avoir tenu des propos incendiaires lors de son déplacement dans le sud du pays au sujet du regain de violence entre éleveurs et agriculteurs. André Kodbajinga, correspondant de VOA Afrique, nous en dit plus.
En tournée politique au sud du Tchad le 22 décembre dernier, Saleh Kebzabo a demandé aux jeunes de son fief et sur toute l'étendue du territoire national de s'organiser pour se défendre en cas d'attaque des éleveurs armés, puisque très souvent, se souvient-il, le rapport de force n'est pas le même et le gouvernement ne fait rien pour protéger les cultivateurs. Des propos jugés incendiaires et donc constitutifs des délits d'atteinte à la paix et à la tranquillité publique, faits prévus et punis par le code pénal tchadien, respectueux des contraintes de l'état de droit, le ministère affaires publiques entend mettre en mouvement l'action publique contre lui. Saleh Kebzabo parle d'une cabale judiciaire pour l'écarter de la présidentielle.
Moi, j'ai demandé que les gens s'arment de sifflets, qu'ils cessent de boire le argot et qu'ils protègent leurs parents, les mains nues. Avec leur nombre, ils peuvent y arriver. Voilà ce que j'ai dit et voilà ce que je répète. Les Tchadiens ne doivent pas du tout se laisser amuser la galerie comme on est en train de le faire parce qu'on prépare l'élection présidentielle et qu'il faut éliminer les adversaires du président Idriss Déby Itno. Les agriculteurs doivent être protégés par la loi. Les éleveurs doivent être poursuivis par la loi.
Pour le député Ali Kolotou Tchaimi, président du groupe parlementaire du MPS parti au pouvoir, un député a un mandat national et donc ne doit pas tenir des propos divisionnistes.
Je condamne fermement ces propos. Ça, je vous le dis honnêtement, ce n'est pas des propos qui doivent être tenus par un député en principe. Mais ce qui est de la lettre qui a été envoyée au président de l'Assemblée, nous attendons que la justice fasse son travail. Nous, on n'a pas peur d'un candidat et tous ces gens-là qui prétendent être des candidats à la présidentielle et qui dénoncent des mauvaises gestions ou autres, ce sont les anciens ministres du président Déby. Et aujourd'hui, ils vont montrer quoi? Que vous abordez devant Déby, il est battu. Il est battu KO même.
Les praticiens de droit estiment qu'il n'y a pas matière à poursuivre et qu'un député est protégé par la loi. Docteur Sitat Yombatina Beni, juriste et enseignant chercheur à l'École nationale d'administration.
La constitution actuelle ainsi que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale interdit, on poursuit, n'est-ce pas, un député pour ses opinions, pour ses propos. Donc je pense que c'est une distraction. Même le préambule de la Constitution du Tchad demande, n'est-ce pas, aux Tchadiens même de se défendre au cas où le gouvernement ne serait pas en mesure, n'est-ce pas, de les défendre. Donc c'est du bon sens. Ça n'a même pas besoin d'une loi du droit. Moi, je viens de faire le Sud. Là, actuellement, je suis dans le Grand Wadaï. Je vous assure, c'est même pire encore que dans le Sud. Hein. Actuellement, les communautés ici sont complètement en chien de faïence. Et donc, il suffit seulement d'un essentiel pour que ça s'éclate. Et donc, je pense continuer à nier l'évidence et continuer surtout à faire la politique de l'Autriche ainsi sud-est.
C'est pour la troisième fois consécutive dans l'histoire de la troisième législature en cours que la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Saleh Kebzabo a été introduite par le gouvernement. Les deux premières demandes ont été sans succès. Reste à savoir si la troisième pourrait aboutir. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous faisons une rétrospective des grands sujets qui ont dominé l'actualité africaine durant l'année 2020. Nous revisiterons la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les activités économiques, sportives et culturelles. L'actualité politique marquée par le débat sur le troisième mandat dans certains pays, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'une série d'élections dans plusieurs pays du continent. Sans oublier le renversement de la majorité parlementaire en RDC. Dites-nous ce qui vous a marqué cette année. Rendez-vous ce jeudi 31 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, a été reconduit à la tête du pays pour un deuxième mandat de 5 ans. Beaucoup de défis se présentent à lui, notamment sur le plan de la sécurité et de la réconciliation nationale. Les Burkinabés attendent beaucoup de leur chef de l'État sur ces deux volets qui ont rendu difficile leur développement au cours de ces dernières années. La correspondance à Ouagadougou de Kader Traoré.
C'est une nouvelle marque de confiance qui a été accordée à Roch Marc Kabore à la tête du Burkina Faso. Élu pour un second mandat, le président burkinabé suscite beaucoup d'espoir de la part de ses compatriotes. Ils n'ont pas manqué de nous le signifier avec des pistes de solutions.
Dieudonné Ouédra, au niveau de la sécurité, il y a des questions qui doivent être vraiment abordées avec beaucoup de poigne. Je sais que le terrorisme est financé de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc il faut tarir ces souffles-là.
Emmanuel Lampandé. Le président Roch Marc Christian Kabore devrait, comme il l'a dit, s'atteler à résoudre un certain nombre de problèmes cruciaux, notamment la question de l'insécurité. Je pense qu'il est grand temps que, effectivement, tous les fils et filles de ce pays se réconcilient pour le meilleur de ce pays. Parce que sans cela, je crois que le développement tant attendu sera un peu biaisé. Au-delà des paroles, qu'il y ait des actes.
Tomé Ivonique, il faut s'en dire que lorsque les Burkinabés seront réconciliés entre eux, on pourra aller vers la même direction pour lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que il y a cette question d'inimitié entre certains Burkinabés que le terrorisme arrive à avoir un terreau favorable.
Je pense que le deuxième mandat du président Kabore, c'est le mandat de la confirmation. En 2020, le peuple a renouvelé sa confiance au président Roch Marc Christian Kabore. Ça veut dire qu'il y aura d'autres innovations, comme j'ai d'habitude de le dire, beaucoup de choses qui n'ont pas atteint les objectifs souhaités, compte tenu du fait de la sécurité, vont pouvoir certainement avoir gain de cause. Et pour ce qui concerne la sécurité, moi je dirais que beaucoup de choses ont été faites pendant le premier mandat. Beaucoup de choses sont encore en train d'être faites.
Les espoirs sont légitimes, les défis sont énormes. Il reste au président burkinabé d'assurer à son peuple la paix et la concorde. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
L'année 2020 a été marquée au Bénin par une crise sociopolitique intense engendrée par l'organisation des élections législatives qualifiées d'exclusives par l'opposition béninoise. Plusieurs villes ont enregistré des mouvements de protestation sur fond de violence ayant occasionné des dommages tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Même avec l'organisation du dialogue national pour une réconciliation de la classe politique, les divisions restent palpables, surtout que 2021 est l'année de l'élection présidentielle. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Depuis que le Bénin s'est engagé sur la voie de la démocratie, rarement le pays a connu une année aussi difficile sur le plan sociopolitique. Les élections législatives ont ouvert la voie à l'éclatement du tissu social. L'ancien ministre de la Défense, Patrice Talon, devant les violences perpétré non loin du domicile de l'ancien président Yahya Boni, causant la mort d'une femme, a laissé éclater sa colère. Candide Azonaï.
En l'état au Bénin, il y a usurpation et confiscation du pouvoir législatif à des fins de coups d'état sanglants en cours. Il faut savoir s'arrêter. S'il n'a pas donné les ordres, aucun militaire ne peut tuer. Et s'il n'a pas donné les ordres, il n'a qu'à interpeller le chef d'état-major des armées pour dire, moi, Patrice Talon, je n'ai pas donné des ordres.
Dans la fièvre des mouvements de la résistance engagés par les forces de l'opposition et au lendemain des violences des 1er et 2 mai, l'ex-chef d'état, Yahya Boni, a été assigné à résidence. Son avocat, maître Kato Atita, décrit une confiscation des libertés et une volonté de réprimer toute voie contradictoire.
Où veulent en venir les gouvernants? Affaiblir le mouvement de la résistance, qu'incarne les leaders politiques en isolant le président Yahya Boni, opposer à l'intérieur du mouvement de résistance les différentes composantes régionales et ethniques et sociales qui la composent. Soit c'est le premier objectif. Mais je dois vous dire, mes chers amis, que Yahya Boni dit qu'il reste solidaire et très solidaire du mouvement de la résistance. Il ne trahira pas cette conviction au sein du groupe des leaders de la résistance.
Muet dans un silence presque gênant depuis le début de la crise, Patrice Talon a finalement décidé de s'adresser au peuple béninois qui ne comprenait pas son indifférence. Son discours de quelques minutes appellera au pardon et à avancer vers la cohésion sociale.
On peut considérer que le regret individuel suffit pour que ça ne se répète plus jamais. Je voudrais souhaiter que le peuple béninois puisse collectivement et globalement pardonner tout et pardonner à tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre auteur de ce qui est arrivé. Pour moi, c'est ce qui aujourd'hui est fondamental, que nos concitoyens nous pardonnent tous.
Un dialogue politique national sera convoqué pour essayer d'aplanir les divergences. L'opposition, à l'exception des forces courées pour un Bénin émergent, boycotte le dialogue, le qualifiant de comédie. Pour elle, avant tout dialogue, les élections législatives doivent être annulées.
Le peuple doit être content le jour où le président a décidé de réorganiser les élections législatives inclusives. C'est ça, moi, mon problème. Donc, il y a eu un libre jeu de ce mouvement pour cela que les opposants vont baisser les bras. Parce que un pays sans opposant, c'est un pays que toujours il n'y a pas la paix.
Mardi, dans son discours sur l'état de la nation, le dernier de son quinquennat, Patrice Talon a déclaré que les libertés fondamentales, malgré les secousses, se portent bien et ne sont aucunement menacées.
Nos libertés fondamentales, compatibles avec notre vie en communauté et notre développement, demeurent elles aussi intangibles, même si nous avons dû, pour l'intérêt général, renoncer à certaines de nos faiblesses que nous confondions avec la liberté. Le constat est de même portée en ce qui concerne notre démocratie, qui expurgée de ses travers, nous permet désormais de ne plus laisser une minorité initiée et privilégiée prendre en otage tout le peuple innocent et mal informé.
Un discours diversement apprécié par la classe politique, pendant que les acteurs politiques proches du pouvoir adressent leurs félicitations au chef de l'État pour un discours véridique et rassurant, l'opposition dénonce un discours teinté de mensonges qui sonne plus pour une pré-campagne électorale. De Cotonou, Jeanette Le Hadandé pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.